Voilà, je propose que nous commencions, si vous en tombez d'accord avec moi.
Tout à fait.
Donc, je suis très heureux de cet entretien que je vais avoir avec Marianne Alphand. Je ne la présente pas, il suffit de lire, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, la petite notice dans le programme. Je citerai juste une chose qui m'a beaucoup plu et ému dans sa bibliographie. C'est un volume avec deux autres auteurs consacré à la figure de l'apparition à Marie-Madeleine, où elle commente cette superbe scène qui est dans l'évangile de Jean, avec Marie-Madeleine qui prend d'abord Jésus ressuscité pour un jardinier, et finalement, ça n'est pas. Il y a là un noyau romanesque que vous commentez, j'ai trouvé de façon remarquable, en passant par Bach, en passant par Virgile, pour ce qui est du toucher. Voilà. Donc ça donne un peu une idée de cette façon, disons, voyageuse de travailler qui est la sienne. Mais aujourd'hui, notre entretien va porter essentiellement sur un livre que j'ai le privilège, grâce à Marianne Alphand, de posséder avant tout le monde, Ces choses-là, qui est à paraître dans quelques jours, mais aussi, préalablement à ce livre, un autre qui m'en paraît, et on en est tombé d'accord, hein, une sorte de prologue qui est Petite Nuit, un volume qui est apparu chez le même éditeur, POL, en 2008. Ces textes, et c'est significatif, il n'y a pas d'indication générique. On ne sait pas si c'est un roman, si c'est un essai. Rien n'est écrit à l'endroit où on écrit le genre de ces textes. Et en effet, ils ont quelque chose, ils sont très difficiles à classer. Il est question dans ces livres de livres, de lectures. On y rencontre des faits historiques. Par exemple, et on le verra tout à l'heure, ces choses-là, c'est un livre sur le XVIIIe siècle, un XVIIIe siècle très singulier, très personnel. Ce sont donc, d'une certaine manière, des textes érudits. Il y a un savoir énorme convoqué dans chacun de ces livres, mais une érudition qui est à chaque fois prise en charge par un parcours très très subjectif, très très personnel, où sont marquées, comme dans tous les livres subjectifs, des dilections, des préférences, des réserves, voire des détestations, et un parcours qui procède de façon non systématique, mais c'est un compliment que de le dire, par avancée, retour, chemin buissonnier, et tout cela avec une sorte de détermination, je dirais, fougueuse dans l'avancée qui compense en somme fait écho au caractère buissonnier de tout cela. Je vous propose alors de commencer tout de suite avec que nous parlions d'abord de Petite Nuit. Alors je dirais, pour présenter un peu cet ouvrage, c'est un livre qui est organisé sur deux niveaux. Il y a tout d'abord une structure portante, et vous allez voir que ce mot n'est pas là par hasard, structure portante, qui est ici donnée par une série, l'évocation d'une série de séances de psychanalyste, chez un psychanalyste. Et cette trame qui supporte le livre, c'est une succession de séances de psychanalyste, une psychanalyste qui a duré 5 ans, mais avec cette caractéristique que le psychanalyste est un être parfaitement mutique, un lacanien dont on se dit peut-être qu'il est même homosexuel et qui scande, c'est dans le livre, il y a une scansion dans le livre, c'est oui, oui. Et puis, dans les interstices de ces oui, intervient le deuxième niveau, la deuxième couche, si vous voulez, qui sont les discours tenus par l'analysé. Et on en restera, si vous le voulez bien, d'abord à ce premier niveau, mais je signale qu'à ce premier niveau, pour faire comme un contrepoids à ce lacanien mutique, apparaît l'évocation constante d'un autre psychanalyste dont le personnage, la narratrice, fantasme qu'elle pourrait être son psychanalyste idéal, c'est Winnicott, psychanalyste chaleureux, dont l'invention majeure, l'objet transitionnel, résume ici une sorte de douceur empathique qui est rêvée, souhaitée et totalement absente de la séance ou des séances qui sont évoquées. ma première question, si vous voulez bien, c'est quelle est la fonction, la nécessité de ce dispositif encadrant, le sens de cette opposition entre Winnicott et lacanien, pourquoi pas quitter le lacanien pour un winnicottien, on pourrait se dire que ce serait plus simple, et quelles sont les aventures, parce que c'est 5 ans quand même qui sont racontées, quelles sont les aventures de cette scène psychanalytique?
Oui, c'est compliqué. Bon, je remercie Sylvie Goudbaron de m'avoir invitée ici, notamment pour un livre alors, dont on va parler ensuite, mais qui n'est pas encore sorti. Donc, c'est un livre qui est là sans être là. Donc là, vous me posez des questions sur un livre qui est un peu antérieur et qui, effectivement, vous l'avez remarqué, moi, je l'ai remarqué en quelque sorte après coup, après avoir fini ces choses-là. Petite Nuit peut être considérée comme une espèce de prologue. Alors, Petite Nuit, c'était un livre... Je voulais faire un livre sur... Il y a toujours des points de départ qui sont ensuite perdus et noyés. Je voulais faire un livre sur des situations de lecture, c'est-à-dire tout ce qu'on se... La façon dont on se rappelle des lectures en situation... On se souvient d'avoir lu tel livre à tel âge, dans une pièce, dans un fauteuil ou dans une dans une villégiature ou dans des positions un peu aberrantes. Et donc ça avait commencé comme ça, comme une espèce de liste. Et puis évidemment, ensuite, ce livre est devenu quelque chose autour de la lecture d'enfance, cette lecture d'enfance qui est porteuse. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on cherche en lisant ? On cherche à être porté. Et ça me renvoyait à un besoin d'être porté qui était un besoin sans doute archaïque, enfantin, et un besoin déçu, un besoin frustré, l'impression de n'avoir jamais été porté. Donc il y a une analyse. Cette chose-là arrive avec d'autres. Et j'ai effectivement un analyste totalement muet, ce qui n'est pas rassurant parce que du coup on est très seul. Et le personnage de Winnicott, ce personnage empathique, c'est ce psychanalyste qui a parlé du holding, du bon holding, le fait d'être bien porté par une mère. Donc cet analyste qui était là, comme une espèce de figure neutre dont on peut toujours penser, mais ça je crois que c'est général chez ceux qui font des analyses. On se dit il ne s'intéresse pas à moi, il dort, il fait autre chose, je l'entendais crayonner derrière moi, je me disais il écrit son courrier, il dessine, un jour en me levant j'ai vu qu'il avait dessiné. Donc on a toutes sortes de bonnes raisons de récuser ce personnage de l'analyste, et en même temps c'est évidemment la figure protectrice majeure, parce que ce oui interrogatif qui était la seule chose qu'il disait est un oui que j'ai pu utiliser. J'avais pas du tout, quand j'ai commencé ce livre, j'avais pas du tout l'intention de parler, de raconter une analyse. Je ne la raconte pas, bien sûr, évidemment. J'ai pas du tout l'intention de... Mais tout à coup, en écrivant ce livre, au bout de 2 ou 3 versions, est arrivé le oui de l'analyste derrière moi, et ça a été comme une espèce de moteur. Donc tout le livre s'est construit comme des avancées, des arrêts, et puis un oui derrière qui relançait et qui permettait de continuer. Voilà l'histoire de Petite Nuit.
Merci. Peut-être juste encore, on ne va pas rester à Petite Nuit trop longtemps, mais donc vous avez rappelé que ce récit fait au psychanalyste n'est pas vraiment... on n'a pas les misérables petits secrets d'une intimité, c'est une...
Non, je ne lui parlais pas du tout de mes lectures.
Et donc, mais alors là, dans le roman, à l'inverse, oui. Vous ne parlez que de ça. Oui. Et donc, c'est l'histoire, vous l'avez bien rappelé, d'un lecteur, des positions de lecteur, et toujours la mise en rapport, en effet, des livres lus avec la scène de lecture, le cadre, le confort ou l'inconfort de ces scènes de lecture. J'ajouterais, et peut-être ça nous permettra aussi de faire une transition vers le deuxième livre, que vous n'êtes pas... une lectrice unique. Vous êtes entourée, et je dirais, il y a une généalogie de lecteurs dans votre famille, un grand-père lecteur. Et peut-être voudrez-vous dire deux mots d'un aïeul, Alfred Bougeot, dont vous parlez, qui est l'auteur d'un précis, ma foi, un peu oublié, me semble-t-il. Je ne voudrais pas vous offenser.
Si, si. Précis historique. Complètement oublié de littérature.
Et chronologique de la littérature française depuis ses origines jusqu'à nos jours. Mais enfin, vous lisez ce livre et vous y trouvez une sorte de coupe de l'état de stabilisation historique de ce qu'est la littérature à la fin du XIXe siècle chez un être
très bourgeois, très réac, voilà. Et qui donc n'aime aucun des auteurs que je peux aimer, bien entendu, qui pour lui, je ne sais pas, Michelet par exemple, c'est l'horreur pure, et donc il va vanter au contraire l'histoire de la Vendée, une histoire de la Vendée par quelqu'un qui s'appelle Crétineau Joly ou quelque chose comme ça. Et donc je lisais ce précis d'un ancêtre, oui, d'un trisaïeul, et j'étais évidemment atterrée de voir, je me disais, bon, je descends de lui et nous n'avons aucun goût commun. J'ai un besoin de lecture et j'ai une activité de lectrice qui est considérable. C'est la chose certainement la plus importante de ma vie, celle à laquelle je consacre le plus de temps. Donc je descends d'un très grand lecteur et jamais nous n'avons un seul goût qui se... C'est une calamité, lire le... C'est pour ça qu'il est à ce livre, et plusieurs autres d'ailleurs, parce qu'il a fait trois volumes aussi sur les littératures étrangères, et je crois qu'on l'a oublié à juste titre.
Mais enfin, voilà.
Alfred Bougeot.
Donc il y a déjà là une sorte de tension qui s'établit entre un style très personnel d'appropriation de la littérature qui est le vôtre, et il y a un contre-modèle, il y en aura aussi dans ces choses-là, des contre-modèles extraordinaires, et c'est comme si cette tension permettait de mettre encore mieux en valeur un style de lecture qui est une sorte de repoussoir. Là, en l'occurrence, c'est un peu unheimlich, hein, un peu inquiétant, puisque c'est dans la famille et qu'on a pu si mal lire. Alors, oui. Mais disons, il y a ce jeu de...
Oui, il faut... C'est difficile. Quand on n'écrit pas un roman où il y a une histoire, une intrigue, des personnages, etc., quand on écrit sur rien ou à partir de rien, quelque chose qui est de l'ordre de l'essai, il faut quelque chose qui guide. Alors, ça peut être l'enquête, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, et d'ailleurs il y a des éléments d'enquête dans les deux livres, mais ça peut être aussi une espèce d'interlocuteur. Alors, un interlocuteur, un bon interlocuteur ou un mauvais interlocuteur. Bon, il était ni bon ni mauvais dans Petite Nuit, cet analyste, il était simplement trop silencieux. Et dans ces choses-là, l'interlocutrice plutôt, c'est l'histoire. L'histoire avec un grand H, que j'appelle Madame l'Histoire, et avec laquelle je ne m'entends pas.
Batailler ferme, oui, tout à fait. Alors on en vient peut-être à ces choses-là. Je vous proposais de dire... pour expliquer pourquoi il me semblait qu'on pouvait lire Petite Nuit comme un prologue, qu'on allait, c'est le rare anglais qu'il y a dans vos livres, qu'on allait du holding au take-off. Take-off est un terme qui revient deux, trois fois dans ces choses-là. Donc au début, il faut être porté, et puis ensuite, je ne sais pas si c'est un avion dur à l'humain que Marianne Alphand a trouvé, tout d'un coup, take-off, et puis ça part. Oui, vous seriez d'accord de dire qu'il y a là...
Tout à fait. Le take-off, qui est le décollage, qui vient de cet historien de la Révolution française, enfin des révolutions en général, mais de la Révolution française, cet historien anglais marxiste qui est mort il y a très peu de temps, qui s'appelle Hobsbawm. Mm-hmm. Et donc, un jour où j'étais en situation difficile, comme on l'est souvent quand on écrit, j'avais vu un ami qui m'a dit « Tiens, prends Hobsbawm ». Hobsbawm, bon, alors j'ai commencé à lire Hobsbawm, et il y a cette histoire de take-off, bon, ce moment où le siècle décolle, et en fait, c'était ce qu'il me fallait, c'était avoir des éléments ou des principes de décollage. Et le principe de décollage, ça va être le détail.
Oui, oui. On va peut-être juste dire en deux mots de quoi il s'agit dans ces choses-là. Le titre est une citation de Sade, sur laquelle on pourra peut-être revenir, en lien avec le détail extrême, hein, et le goût de Sade pour le détail. On a, dans les premières pages, nous autres qui lisons des livres professionnellement, nous savons qu'en principe, dans les premières pages, l'écrivain s'adonne à une sorte de codification de ce qui va venir. Il y a là une fonction codifiante, pour le dire de façon cuistre. Et on la trouve très bien dans ces premières pages, parce qu'on est en somme, pour utiliser un mot anglais que vous n'utilisez pas, backstage, c'est-à-dire dans l'atelier de fabrication au début, et on apprend que vous avez dans ce livre d'abord à trouver le bon ton, hein, dans l'attention à ce qui vient plutôt qu'en se forçant à le trouver. Il y a aussi la position du sujet du livre. Il va être question, apprendra-t-on là, non seulement il va être question du XVIIIe siècle, mais il s'agit de trouver des moments typiquement 18e siècle, la mention revient parfois, ça, très 18e siècle, une essence du 18e siècle, hein, c'est ça le but. Et puis ensuite, il faut dégager une méthode, c'est comment je vais trouver, une fois que j'ai trouvé le ton, une fois que j'ai mon sujet, comment est-ce que je vais arriver au 18e siècle. Alors là, il y a des pistes qui sont envisagées, il faut suivre des figures, se référer à des souvenirs personnels. Puis il y en a surtout une sur laquelle on pourra revenir tout à l'heure, c'est le mesmérisme. S'il y a une électricité qui se dégage du XVIIIe siècle, il faut devenir un bon sujet conducteur de cette énergie. Et le livre devrait être cet objet mesmérien où le XVIIIe siècle revit dans sa tension électrique. Mais si vous le voulez bien, on va peut-être commencer par le sujet, votre XVIIIe siècle. Il y a en effet, c'est vraiment votre XVIIIe siècle, c'est pas du tout le XVIIIe siècle de tout le monde. Hein. Alors, c'est un XVIIIe siècle, on parlait de take-off tout à l'heure, c'est un XVIIIe siècle léger, marqué par des figures aériennes. Alors, il y a des peintres, Tiepolo, Fragonard, il y a Casanova qui revient, et puis... Et, alors il y a une grande attention au paysage 18e, les jardins avec des fabriques, mais les paysages eux-mêmes, et puis une prédilection qui est extraordinaire et constante pour les étoffes. Vous avez acquis une érudition extraordinaire dans la façon de nommer des étoffes qu'on a parfaitement oublié aujourd'hui, mais enfin, vous connaissez tous ces noms, étoffes qui sont déployées dans toutes leurs couleurs et de toutes leurs variétés. Vous voulez peut-être dire quelque chose de ce goût pour les étoffes, essence du 18e? Et du reste aussi.
Tout à l'heure, je déjeunais à côté de Patrick Boucheron, qu'on a entendu ce matin, et je lui ai posé la question que je me suis posée tout le temps quand je l'écoutais, comment devient-on médiéviste ? Donc, pourquoi le Moyen-Âge ? Pourquoi cette spécialité ? Donc, alors il me dit, pour beaucoup, du côté des médiévistes, il y a les catholiques, alors côté cathédrale, etc., la religion, il y a aussi la chevalerie. Et il me dit, non, ça, moi, c'était ni l'un ni l'autre. Hein, et je suis devenue médiéviste parce que, les éléments dont on disposait, les documents, étaient rares. Et c'était ça qui m'intéressait, c'était le rare. Alors, je ne suis pas 18e-iste. Si j'ai fait un livre sur le 18e, c'était un peu pour combler une espèce de lacune ou répondre à une question que je me posais, qui était que j'avais d'abord été 17e-iste, voilà, un fond classique très solide, un amour du classicisme, Pascal, le théâtre du 17e. Et puis ensuite, j'ai eu une période très 19e, prolifération de lectures, de goûts, etc. Et le 18e avait toujours été un siècle à éclipse. Tantôt, je me passionnais pour Rousseau ou pour Saint-Simon, et puis ensuite j'en sortais parce que je revenais à Pascal ou à autre chose. Et puis, j'allais du côté de Rétif de la Bretonne, de Sade, puis il y avait la Révolution française, etc. Puis, je dégageais et j'allais vers l'impressionnisme. Mais au fond, on se rend compte qu'on est constitué, on est tous constitués par des espèces de strates historiques. Il y a des parties de nous qui touchent au 19e, il y a des parties de nous qui touchent au 17e, il y a des parties de nous qui touchent au Moyen-Âge. Et donc, ça a été comme une espèce d'interrogation, peut-être d'enquête, oui, aussi. Qu'est-ce qui, en moi, touche au 18e? Et bien sûr, je suis tombée sur les étoffes, sur la soie, sur peut-être aussi, parce que le 18e, on l'apprend par sa famille, on l'apprend par les livres, on l'apprend dans des lieux, dans des endroits, dans des parcs, par exemple, parc d'Hermenonville ou le désert de Ray. Mais je me souviens d'une émotion très, très forte dans le musée des tissus à Lyon. Un jour, la première fois que j'ai vu ce musée des tissus, j'étais allée faire une lecture, un truc comme ça. J'avais une après-midi très, très, très seule, c'était il y a très longtemps, et je regardais ces tissus, ces robes. Il y avait beaucoup de choses du 18e. Et le 18e, indéniablement, est un siècle formidablement sensuel. Contrairement au 17e, que je mets du côté de l'austérité, du jansénisme, etc. Bon, le 19e, c'est plus flou, mais on a l'impression que le 18e est un concentré de sensualité. Alors, il y a tout ce côté, bien sûr, du libertinage, de l'érotisme, de la fête, etc., de la galanterie. Et il y a cette autre dimension sensible qui en fait un siècle, par moments répulsif. C'est la mort, c'est la guillotine, c'est la terreur. Donc, c'est un siècle qui est complètement clivé. On est avec Rousseau, l'herbier de Rousseau, les Charmettes, Madame de Warin, etc. Et puis tout à coup, paf, on tombe sur Robespierre, on est du côté de Fragonard, la peinture, etc. C'est merveilleux. Et puis, toc, c'est la mort de Marat, peint par David. Ou alors, on a cette identification, parce que je crois que l'enfance est profondément monarchiste. Hein, mes grands héros, quand j'étais enfant, bien sûr, c'était Louis XVII, c'était l'enfant du temple, puis avec toutes les histoires extraordinaires sur son évasion possible, ou au contraire sa mort misérable. Et puis le roi, et puis la reine, etc. Et c'est à l'adolescence, évidemment, qu'on devient totalement républicain, qu'on suit avec passion l'histoire de la Révolution française. Et donc, on est clivé. On a cette dimension-là en nous. Hein. On est monarchiste. Bon, quand on lit Saint-Simon, et quand on adore Saint-Simon, comme certainement beaucoup ici, on est fasciné par la cour. Bon. Et on est rejeté hors de cette cour, parce que nous faisons partie de ces gens de rien qui sont exclus, bien sûr, de la cour. Donc, ce siècle clivé, c'était un siècle, je pense que c'était pour ça que ça a toujours été difficile pour moi de m'y installer, parce que tantôt j'y étais bien, si je puis dire, dans les étoffes, dans la soie, etc. Et tantôt, il y avait quelque chose de terrible qui m'en éloignait, par exemple, le compte-rendu de l'exhumation des tombes de Saint-Denis, avec le relevé, qu'est-ce qu'on a trouvé dans chaque tombe et dans quel état de liquéfaction était-elle roi quand on a ouvert son tombeau. Ça, c'est les choses, c'est les grandes scènes qui se passent sous la Convention. Il y a toute l'histoire, on prend une dent, on prend un ongle d'un roi, etc. Il y a toutes sortes de... Alors, on a un compte-rendu qui est très précis, puis on a divers témoignages de gens qui ont chapardé un peu pour des raisons qui ont ensuite été... élevés dans leur récit, j'ai sauvé un ongle de Henri IV, j'ai essayé de prendre une dent de Louis XIV, je n'ai pas pu, mais j'ai eu, je ne sais pas quoi, une touffe de cheveux de Marie de Médicis. Et donc, voilà, on se glorifie d'avoir sauvé quelque chose de ces corps royaux qui étaient jetés à la décharge, mais en même temps, notre fascination pour ces choses-là, elle est d'un tout autre ordre. Hein. Il y a du fétichisme, il y a du voyeurisme, il y a une érotisation de la mort. Et donc, tantôt, on y va, parce que on est tenté, on est happé. Il y a quelque chose d'enfantin, hein, dans notre goût pour, la décapitation du roi ou la mort de Louis XVII. Et puis, tantôt, on se reprend et on sort de ce siècle en disant « c'est pas possible ». Ou tantôt, bon voilà, c'est la grâce, le libertinage, etc. Bon, tout ce côté un peu solercien. Puis à d'autres moments, on se dit non, je retourne à Port-Royal.
Peut-être, on y va du côté du 18e solercien, mais aussi de l'autre, ce 18e sombre, amoureux de la mort, des cadavres, de 18e sadien. Mais alors, comment y va-t-on? Peut-être vais-je vous proposer de lire un paragraphe pour voir un peu, parce qu'il y a une façon, il n'y a pas seulement un 18e siècle alfantien, ou comment dit-on, mais il y a aussi une manière toute alfantienne de s'y rendre, peut-être à partir de Kant et puis jusqu'à ici, comme ça. Ça me paraît.
Ah, vous avez choisi.
Si vous voulez prendre un
autre.
Non,
c'est tout à fait bien. C'est dans ce que vous appeliez les coulisses ou les préliminaires, et c'est ce moment du livre et du travail qui a duré un certain nombre de mois et d'années, où j'inventoriais tout ce qui me revenait du XVIIIe siècle, tout ce qui m'était resté, comme une espèce de. Un long inventaire, comme des matériaux. Kant, la loi morale et le ciel étoilé. Marianne, Sylvia, Manon, Lisette, conquête ingénue, Virginie, Cydalise. Un théâtre de verdure à l'abandon dans la campagne. Les grands volumes de l'encyclopédie, feuilletés un jour d'hiver dans les réserves d'une bibliothèque de Pontoise. Cagliostro. She stooped to conquer, en classe de seconde, avant de jouer le chevalier du lait sur la scène du lycée, l'ajouter au corpus avec l'infant de Parme et son éducation par Condillac, le cimetière de Picpus, la terrasse des Feuillants, le square du Temple, Figaro, Bartolo, Chérubin, comme on creuse sous terre sans savoir ce qu'on cherche, ni comprendre toujours ce qu'on trouve, une perle de verre, un ex-voto, la veste à rayures de Robespierre, Diderot fuyant des cygnes en courant et se blessant aux pieds chez Madame d'Épinay. Sade et son système chiffreur. Des souliers roses à talons verts dans l'alcôve de Rétif. Les jeux d'enfants, château de cartes ou Toton chez Chardin. Le gazon de Kensington, ce beau gazon roulé, fauché, tondu, balayé, que Malesherbes admirait à Londres. Venez, détail. Clio à son petit lever. Venez, gazon, mouton, plan d'eau, tout compte dans la composition du paysage que ce siècle invente avec l'histoire, l'égalité, le sentiment des choses, l'ascension au ballon, la terreur, et quoi encore? L'enfance, se dit-on, la tête renversée vers le ciel à travers les branches, l'électricité, le magnétisme, la légèreté, le goût des ruines, l'amour.
Vous pouvez peut-être dire deux mots de ça. Vous voyez, il y a un ton. Alors certes, on est dans les pages inaugurales, mais cette façon d'écrire, vous avez vu, ce sont des fragments juxtaposés, ça revient. Les phrases sont souvent nominales. Donc on est dans un 18e qui, ici, il y a l'impératif, venez, venez.
Hein,
un 18e invocatif et laudatif. Hein, je dirais qu'il y a une façon d'être dans le langage pour évoquer votre 18e siècle, qui est de l'ordre de l'invocation, il s'agit de l'appeler pour le rendre présent, c'est le mesmérisme, on pourrait dire, la version stylistique de ce que thématiquement le mesmérisme implique, de cette électricité, c'est comme ça que vous faites passer l'électricité, l'appel et que ça vienne, que ça soit bon conducteur, la langue, et il me semble que ce qui est bon conducteur chez vous, c'est justement ces phrases brèves et... c'est un élément, vous y avez déjà fait allusion, un intérêt pour le détail, mais qui est souvent, c'est des détails auxquels une importance assez grande est donnée, des descriptions somptueuses sont proposées de Brimborion. D'ailleurs, votre historienne, Madame l'Histoire, vous reproche de crébillonner de façon exagérée.
Oui, l'affrontement à l'histoire ou le conflit avec l'histoire, Madame l'Histoire, c'est ça, c'est que l'histoire demande d'organiser et de sauter les détails et de ne pas se perdre dans les détails. Or, c'est en ça que je ne suis pas historienne, bien sûr, que je ne peux pas l'être, hein, qu'en même temps, il y a, comme chez Patrick Boucheron, médiéviste, une attirance vers une époque et, au fond, un siècle dans lequel je suis certains historiens, c'est-à-dire comment Lamartine, par exemple, parle de l'histoire des Girondins, ou comment Lavis, qui est ce personnage académique de l'historien, Lavis, on a appris, enfin en tout cas pour ma génération, les premiers livres d'histoire qu'on avait avec des petites vignettes décrivant un certain nombre de scènes du XVIIIe, c'était la méthode de Lavis. Bon, donc je suis certains historiens et au fond aucun ne me satisfait parce qu'il n'y a pas de détails. Et c'est le détail qui est électrisant, c'est le détail qui réveille, c'est le détail qui soulève, qui permet le décollage. Et le détail, c'est justement ce que l'histoire ne veut pas voir. Donc, par exemple, un exemple, l'histoire va me montrer la peinture de David, grande scène de Brutus, rapporter les fils de Brutus, rapporter sur des civières les cadavres qui ont été condamnés par leur père, etc. Bon, ce tableau hyper célèbre, magnifique de David, avec le groupe des femmes d'un côté, le père plongé dans la pénombre avec les cadavres de ses fils derrière lui, mais Le détail, c'est la fameuse corbeille à ouvrage qui est au centre de la toile sur un tapis rouge. Et c'est ça qui touche, c'est ça qui électrise, c'est ça qui soulève, qui enlève et qui donne vie. Il y a un pouvoir résurrectionnel dans le détail. C'est d'ailleurs pour ça, en quelque sorte, qu'il y a eu tellement d'importance accordée aux reliques. Il y en a toujours, du reste. La relique, c'est celle qui conserve quelque chose de la vie du saint ou du héros, enfin, peu importe. Donc, cette importance des reliques, cet énorme trafic de reliques, etc., bon, on le sent moins, mais on a tous nos reliques, nos reliquaires et nos... Et dans ce phénomène de la relique, il y a ce, comment dire, cette espèce de, bon, évidemment aussi de dimension du fétichisme, mais il y a aussi ce côté petite chose perdue, qu'on peut découvrir, qu'on peut garder, qu'on peut cacher, et à quoi, au fond, tient le monde. Le XVIIIe siècle, tel que je le sentais, tel que je le percevais à travers des petites choses, qui pouvaient être, par exemple, la liste des bijoux que Madame du Barry avait fait enterrer dans son parc à Louveciennes. Au moment où elle est arrêtée, je pense que vous savez tous que Madame du Barry, la pauvre comtesse, c'est celle qui s'est mal tenue sur l'échafaud, parce que contrairement à toutes ces aristocrates qui montaient dignement et qui mouraient bravement, elle a sangloté, elle se débattait, elle suppliait, et c'est elle qui dit « Monsieur le bourreau, encore un moment ». Et donc, pour sauver sa vie, au dernier moment, alors qu'elle a été condamnée à mort, elle essaye de gagner du temps et de sauver sa peau en révélant tout ce qu'elle a enterré dans le parc à Louveciennes. Et donc, il y a un compte-rendu détaillé de tous les bijoux, de les statues, etc. Et tout a été enfoui dans la terre. Bon, voilà, le XVIIIe siècle, c'est ça. C'est des choses enfouies dans la terre. C'est les objets que Sade réclame à sa femme et dont il a besoin dans sa prison. C'est l'inventaire des tissus et de leurs différentes origines géographiques en France, dressées par les encyclopédistes. Et tous ces détails, au fond, qui peuvent intéresser des spécialistes, mais qui n'intéressent pas l'histoire générale. Et ben voilà, c'était autant de sujets de, comment dire, de réprimande de la part de l'histoire qui sans arrêt me dit non, il faut laisser. Le cheveu, par exemple, ça, c'est une chose que je trouve très belle. Boswell, qui est donc cet Anglais qui a écrit, qui est un écrivain qu'on connaît pour avoir, comme un grand biographe. Boswell, quand il est jeune, il fait un tour en Europe et son rêve, c'est d'aller voir Rousseau. Et donc, il arrive à Rousseau, qui est en Suisse à l'époque. Il s'habille, soigne son apparence, etc. Il se promène longtemps dans la montagne en imaginant la conversation qu'il peut avoir avec Rousseau. Puis bon, il le rencontre. Bon, c'est un peu compliqué, comme toujours, parce que Rousseau, qui est habillé en arménien, n'est pas un homme très facile, mais il est tellement bouleversé, Boswell, que quand il part, il lui dit « il faut qu'il nous reste, il y a quelque chose qui doit rester entre nous ». Il s'arrache un cheveu et il le donne à Rousseau. L'histoire n'en a rien à faire d'un cheveu, mais au fond, la vie passe par là.
Donc l'histoire, en effet, n'a rien à faire des détails, et surtout, elle demande aussi, parce que c'est l'autre, il y a tous ces détails en effet enchanteurs, mais il y a aussi la syntaxe dans laquelle vous inscrivez ces détails, parce que l'histoire, donc il y a Madame l'Histoire, et puis il y a, à un certain moment j'ai trouvé ça très amusant, vous parlez d'un coach, c'est très moderne aujourd'hui, il n'y a plus d'autorité qui ne passe par ce côté compassionnel, le coach, hein. Donc, il s'agit pour l'histoire de prendre de la hauteur et d'accéder. C'est une formule de Jean Starobinski que j'adore par-dessus. Toute belle formule de Jean Starobinski. À propos de cette capacité qu'a la théorie, lorsqu'elle prend de la hauteur, à mettre tout dans la même lumière, il parlait du grimoiré de la théorie qui en poussière, met sa poussière d'argent sur quelque objet qu'on touche. Eh bien voilà, face à ce grimoiré de la théorie qui unifie tout, il y a dans votre texte, et je dirais c'est la syntaxe du détail, c'est son hétérogénéité fondamentale. Il y a toujours des choses qui s'accumulent et peut-être pourriez-vous dire quelque chose de cela. Vous aimez mettre en rapport des choses qu'on n'imagine pas mettre en rapport. Petite Nuit, il y avait par exemple ce constat extraordinaire que Stendhal, lorsqu'il faisait la campagne de Russie, il aurait pu rencontrer Ségur, le fils historien de Napoléon. Et puis vous dites, je l'avais noté ici.
Oui, il est allé dans la maison du père de la comtesse de Ségur. La maison que le père de la comtesse de Ségur, qui était le gouverneur de Moscou, etc., avait fait incendier pour... la maison était un peu démolie, mais enfin, il y avait quand même des choses. Et Stendhal se promène et regarde les cahiers des enfants, donc de la comtesse de Ségur. Bon, ben oui, c'est des choses...
Alors, vous, ce qui vous fait plaisir, c'est vous dire, moi, j'ai lu la comtesse de Ségur quand j'étais petite, ensuite j'ai lu Stendhal, et tiens, il y a dans l'histoire, et vous vous enchantez à certains moments, c'est la citation que j'avais notée, « Tout se tient, se combine, s'enchaîne à l'infini », et c'est un moment euphorisant.
Oui, bien sûr, mais c'est une façon de mettre les choses ensemble, écrire, hein, de façon générale, mais dans des textes comme ceux-là qui réunissent des choses très disparates, c'est essayer de mettre de l'ordre dans le monde et de mettre de l'ordre en soi, hein, dans sa vie, surmonter le disparate. Et en même temps, on s'aperçoit que quand on maintient le disparate, on maintient quelque chose d'excessivement vivant et une capacité de prolifération que n'a pas le grimoiré de la théorie, mais qu'a par exemple le rose Tiepolo.
Vous parliez de Bachaumont aussi, vous l'utilisez beaucoup.
Bachaumont, oui.
Alors voilà, vous avez des pages où des choses qui ont été retenues par l'histoire, chez ce chroniqueur mondain des années comme elles vont, voilà. Vous avez des événements parfaitement oubliés aujourd'hui, et puis des choses dont, il y a mort de Rossini, Jean-Jacques Rousseau publie l'Émile, et au milieu de ça, il y a des détails parfaitement oubliés de l'histoire. Et en reprenant contre l'avis de Madame l'Histoire, de manière têtue, un inventaire d'un certain nombre d'années, les années 60 du 18e, avec Bachaumont comme source, vous cassez en somme cette belle harmonie pour donner la substance hétérogène des années telles que...
Oui, la chair.
Oui, oui, oui.
La chair, elle n'est pas dans... D'abord, j'en serais incapable de raconter le siècle. Bon, impossible. C'est impossible. Il y en a qui l'ont fait, très bien, c'est le métier, etc. Mais essayer d'être dans ce siècle, de le sentir, de le traverser, toujours en se demandant, au fond, comment est-ce que je peux le comprendre ? Où est-ce qu'il faut que je me place pour le comprendre ? Pour comprendre ce qu'il est, pour le sentir ? Alors, il y a différents points d'ancrage. Alors, est-ce que c'est avec Casanova ? Ou alors, est-ce que c'est avec Sade ? Ou est-ce que c'est avec Rousseau ? Bon, et puis, ça ne cesse de bouger. Alors, quelque chose, un détail dans la vie de Rousseau, qui va être, par exemple, une petite mousse qu'il cueille pour son moussier, parce qu'il y avait l'herbier pour les plantes, et puis il y avait le moussier pour les mousses. Bon, une petite mousse qu'il cueille pour son moussier. Et là, tout à coup, le 18e est là. Sade, qui écrit à sa femme de lui envoyer un biscuit au chocolat, bon, on le fait de telle et telle manière parce que le dernier n'était pas bon, etc. Bon, voilà, c'est la chair, c'est la chair, c'est la vie, c'est ce que Barthes appelait l'effet de réel. Il évoque d'ailleurs assez curieusement une scène à ce sujet-là, une scène du 18e qu'il a trouvé chez Michelet et qui est la dernière heure de Charlotte Corday avant qu'elle monte dans la charrette. Et donc elle a obtenu que on fasse son portrait, parce que je pense que quelqu'un qui s'intéressait à cette jeune royaliste, héroïne, etc., qui allait être guillotinée, avait envie de faire son portrait. Donc elle a une heure, quoi, à peu près, en gros. Et Michelet dit tout à coup, on frappa à une petite porte. Et il dit, voilà, la petite porte. Alors, c'est le bourreau qui arrive, la petite porte. C'est l'effet de réel. Et ça passe toujours par des choses minuscules. Et c'est ça qui est formidable, qui est fascinant, c'est d'essayer de voir quelles sont ces toutes petites choses par lesquelles passe, oui, on pourrait dire, l'électricité, le courant,
la capacité de s'identifier. Voilà. Peut-être pour conclure et avant de donner la parole à qui souhaite la prendre, je lis encore la citation de Sade que vous citez et qui donne le titre, ces choses-là, et ça me paraît un bon résumé de ce goût du détail et de ce que le détail apporte. « Laissez-moi, dit-il à son épouse, cette infinité de choses et de détails, très délicieux selon moi, et qui savent si bien adoucir mes malheurs quand je laisserai mon imagination. N'espérez pas me changer, écrit-il à sa femme. Toutes ces choses-là et leurs ressouvenirs sont toujours ce que j'appelle à mon secours quand je veux m'étourdir sur ma situation. » Eh oui.
Oui, alors évidemment, sous la plume de Sade, ces choses-là, c'est plutôt de l'ordre des fantasmes érotiques, mais c'est aussi il y a au début de mon livre l'évocation d'une chose extrêmement singulière dans la correspondance de Sade. Madame de Sade écrit à son mari: tu te souviens de nos petits papillons de Lacoste? Et là, ça le rend fou. Et donc, il écrit, mais qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que vraiment ces papillons, c'est ce que nous faisions ensemble? Bon, on se dit, qu'est-ce qu'ils faisaient ensemble? Qu'est-ce que c'était que ces papillons, etc. Bon, alors, ça fait partie de ces choses-là, les petits papillons de Lacoste. On a Sade à travers ça, tout autant qu'à travers la lecture des... Voilà, de Juliette.
Oui. Très bien. Sylvie, si tu veux.
Moi, si je veux faire passer le micro, oui, volontiers. Et, oui, Xavier Girard.
N'avez-vous pas écrit, un petit peu pour paraphraser le titre d'un ouvrage assez fameux encore, votre 18e siècle à travers les âges?
C'est-à-dire?
Eh bien, quelle place faites-vous? Par exemple, vous avez évoqué le rose tiepolo. Le rossi polo, c'est une expression de Proust devant un plafond de tiepolo où un tissu rose tourbillonne dans l'espace. Et c'est le 18e siècle. On ne voit le 18e. Enfin, j'ai souvenir d'un colloque que j'avais organisé sur le thème Matisse aujourd'hui. Et je me souviens de la réaction de Jean-Claude Lebenchan qui me disait, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce titre? C'est toujours Matisse aujourd'hui que nous apercevons. Or, en quoi votre 18e siècle est-il le 18e siècle d'aujourd'hui, à travers les âges?
Jean-Paul Thomas décrit un 18e siècle.
Oui.
Qui est celui qui est passé au travers de non pas seulement de sa connaissance de spécialiste des pamphlets au XVIIIe siècle, mais de son intérêt pour Thomas Bernhard, pour Barthes, pour...
Oui, pour Casanova aussi, voilà. Etc. Oui.
Mais pas seulement des auteurs du XVIIIe siècle, des auteurs tout à fait contemporains.
Alors ça, je ne saurais pas répondre à cette question. J'ai l'impression que, je ne sais pas si ce 18e siècle dont je parle est un 18e siècle d'aujourd'hui, peut-être. Je pense qu'il correspond en même temps à différentes périodes de ma vie. Il y a un 18e siècle de mon enfance. Hein, j'avais de la toile de Jouy dans ma chambre quand j'étais enfant. Il y a un 18e siècle de mon adolescence, la découverte de Rousseau, par exemple, et de Sade. Il y a un 18e siècle d'une autre période. Et tout ça, non seulement nous avons des strates, comme je le disais tout à l'heure, il y a en nous quelque chose qui touche au Moyen-Âge, quelque chose qui touche au 19e, quelque chose qui est en rapport avec l'Antiquité latine, etc. Mais il y a aussi, dans notre vie, pour un même siècle, des choses qui se, disons, des approches sensibles ou intellectuelles qui se superposent. Hein. Bon, il se trouve que ma première formation, c'était la philosophie, et que l'auteur sur lequel j'ai écrit, dont je me suis occupée, c'était Hume, bon, l'empirisme. Et donc, tout à coup, Hume peut entrer dans cette composition. Et je me rends compte que, oui, quel est le rapport entre la toile de Jouy de mon enfance et puis Hume, et puis l'intérêt l'intérêt érotique qu'on peut tout ce qui peut nous attirer vers Sade par exemple ou vers Rétif de la Bretonne. C'est des combinaisons qui sont pour moi indécidables.
On pourrait dire que c'est, pour parler comme Stendhal, que c'est un 18e siècle égotiste.
Oui, peut-être. Peut-être.
Oui, d'ailleurs, on retrouve, puisque Xavier Girard a évoqué Chantal Thomas, on retrouve chez toi, Marianne, le catalogue des tissus qu'elle avait, qu'elle choisissait chaque jour, pratiquement.
Oui, la fameuse histoire des cahiers de la reine, oui, le cahier avec ses robes, oui.
Et on retrouve aussi chez toi un détail cher à Arlette Farche, puisqu'elle a travaillé sur les bracelets, et tu l'évoques aussi. Et je pense que dans la forme qui est, nous disais-tu, que tu ne savais pas ce qu'était ce livre, qui n'est ni un roman, ni etc., etc. Dans la forme, il est extrêmement contemporain. Le goût aussi, qui à mon avis revient en littérature, et l'inspiration que représente par exemple le désert de Ray, dont tu parles merveilleusement bien, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement contemporain. Après, il faut définir pourquoi. Mais...
Oui, c'est difficile d'en juger. Je pense qu'il y a que nous avons aujourd'hui une très très grande sensibilité au fragment, par exemple. Hein. Donc du fragment, le fragment est en rapport avec les bribes, avec les restes, avec les ruines, avec le détail, avec tout ça. Bon, il y a sans doute une grande importance contemporaine accordée à l'archive, l'archive, il n'y a rien de plus, voilà, de plus sensuel. Bon, Arlette Farge en parle merveilleusement dans le goût de l'archive. Donc sans doute que tout ça, c'est très... c'est un 18e siècle qui n'aurait pas été le 18e siècle de mon trisaïeul Alfred Bougeot. Certainement pas.
Alors, voilà, si vous ne voulez plus prendre la parole, je vous rends le silence, mais je vous remercie infiniment. Oui, puisque Jean-Paul Hirsch est là. Jean-Paul, tu peux, le livre, ces choses-là, sort, paraît le 7 février, c'est ça? Voilà. Donc courez le lire, achetez-le, c'est une merveille. Merci.
Oui, je ne vais pas vous laisser partir.
Demain, nous retrouvons ici même à 10h15. Les rencontres n'ont pas lieu au Goethe-Institut, comme vous pourriez le croire, mais bien au Petit Palais. En fin d'après-midi, nous allons au Goethe pour la projection du film et les lectures.